Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after à la radio sur RMC, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, l'after, l'émission qui analyse les défaites des clubs français, on commence à avoir l'habitude, cette semaine notamment, Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier.
Salut, bonsoir Lionel. À tous, non, ça va pas.
Lionel, depuis qu'il est avec
nous en after, je trouve que avec ça sent nous. Salut,
pire. Bonsoir tout le monde. C'était pas bien avant. Ça empire avec Lionel. Il est arrivé fringant.
Ouais.
Ah non, il a apporté une jeunesse dans cette émission.
Excuse-moi, la première saison de Lionel en Ligue des Champions dans l'after, il a fini finaliste avec un club français.
Exactement.
Mais ça
faut pas avoir la mémoire courte.
C'est vite estompé.
Tu trouves? Ouais. Je vais en parler à Tourelle alors.
C'est vrai que cette semaine c'est chaud quand même. Alors,
on a les fesses rouges là. Là, on a les fesses rouges, je peux te dire.
On va avoir deux victoires demain soir.
Quoi?
Non, je déconne.
Oui. On peut finir la semaine avec que des défaites, là. On en reparlera. Alors, les résultats du soir et surtout les classements. Écoutez bien. On va démarrer par le PSG. Donc, le PSG donc, qui perd 2-1 à Leipzig. Pendant ce temps-là, Basaksehir a battu United 2-1. Du coup, c'est quand même assez serré. Ça arrange le PSG, on va dire. Finalement, cette victoire de Basaksehir. 6 points pour United et Leipzig. 3 points pour le PSG et Basaksehir. Prochain match des Parisiens, ce sera face à Leipzig, donc au Parc des Princes. Le 24 novembre. Rennes, de son côté, a perdu 3-0 à Chelsea. Séville, dans le même temps, a battu Krasnodar 3-2, ce qui arrange bien les Rennais. Alors, Chelsea et Séville ont 7 points, donc on peut considérer quand même que même si mathématiquement ils ne sont pas éliminés, Krasnodar et Rennes.
Ça arrange bien les Rennais.
Bah oui.
Ah, pour la 3ème place.
Bah oui. Ils ont un point, Krasnodar et Rennes.
À Krasnodar aussi.
Exactement.
Ah oui, d'accord. Oui. On attendra un peu pour l'arrangement, si tu veux dire.
Non, mais là, si Krasnodar avait gagné, c'était moins bien pour
moi.
Oui,
mais pour le PSG, la défaite de Manchester en Turquie, c'était arrangeant aussi ce soir.
Oui.
Après, à l'arrivée, ça arrange moyen.
Les deux autres groupes.
Au début, un arrangement, mais après, c'est pas sûr.
On aura les drôles de l'âme tout à l'heure avec nous. Zenit Lazio un partout, alors que Dortmund a gagné à Bruges 3-0. Dans ce groupe, Dortmund a 6 points, Lazio en a 5, Bruges en a 4, le Zenit en a 1. Et puis le dernier groupe, le Barça, le Dynamo de Kiev 2-1. Et la Juve gagne à Ferencváros 4-1. Le Barça a 9 points, la Juve en a 6. Kiev et Ferencváros ont 1 point. Voilà tous les résultats. Le 32-16 est évidemment ouvert pour vous. Appelez-nous, supporters parisiens, supporters rennais, le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur nos applis, le compte Instagram Oussem.
Afterfoot RMC, tout attaché.
Donc dans tous les autres groupes, là, j'ai l'impression que tous les favoris sont déjà en tête, sauf le nôtre.
Globalement, oui. Oui, le Barça est invaincu. Barça, Juve, ils ont fait la différence. Chelsea, Séville ont fait la différence.
La Juve.
Dortmund a fait la différence.
La Juve et.
La Juve aussi. Et le Barça, ouais. Effectivement. Allez, les trois points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir ?
Il y avait, je pense, mieux à faire. C'est le premier point parce que Paris a fait une très bonne première période vu les circonstances et l'effectif. Mener 1-0, avoir balle de 2-0, c'était donc premier point d'abord positif. Le deuxième point, c'est que le PSG a disparu et que on a alors assisté à une sorte de débandade orchestrée par l'entraîneur et ses changements et l'incompréhension globale qui règne dans cette équipe est réapparue au grand jour. Et mon point 3, dans la mauvaise nouvelle, il faut espérer une bonne nouvelle. Je pense que la trêve internationale va donner l'occasion à Leonardo et à Nasser Al-Khelaifi de se séparer de Thomas Tuchel. Il en va du salut de ce club qui sinon risque de ne pas sortir du groupe.
Lionel, tes 3 points.
Écoute, moi, mon premier point, c'est très déçu par le milieu du PSG. Voilà, dans cette configuration, moi, ça ne me plaît pas du tout. Ça manque de profondeur. On peut même pas ressortir les ballons non plus, c'est impossible. Mon deuxième point, on parle beaucoup des blessés au PSG. On parle, et Thomas Tuchel déplore le nombre de blessés, mais moi, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit, mais qui gère l'effectif? Est-ce que c'est pas l'entraîneur et son staff aussi? Et mon troisième point, je suis, mais alors déçu encore une fois. J'aurais voulu mettre une note d'optimisme, mais en plus c'est un joueur que j'aime bien. Mais je suis déçu par le comportement de Kimpembe, qui lorsque le PSG est en difficulté, j'ai l'impression l'enterre à chaque fois. Là, il fait une main, on se demande pourquoi il fait la main. Même s'il laisse passer le ballon, il y avait personne derrière, donc je vois pas l'utilité de faire ce geste dans les 16 mètres. Et puis cette expulsion, mais voilà, enfin ce deuxième jaune expulsé, bah tu penses même pas à demain, et je comprends pas mentalement ça passe pas, ouais. Et j'ai l'impression que dans le dur,
pétage de plomb de Kimpembe à la fin, je pense, parce que la fin, ouais, qu'il fait, c'est n'importe quoi.
Bah ouais, mais voilà, pétage de plomb,
le groupe
pétage de plomb
tenu et le groupe a perdu en confiance. C'est ouais, pour ça que finalement on tournera très vite autour de la question essentielle, Lionel, ce soir.
Ouais, avec
c'est
Tourelle,
de savoir si le groupe continue avec ce coach. Je pense que non, parce que
mais tu dois pas péter les plombs quand même.
Le point de rupture, c'est effectivement l'imbroglio autour de Danilo Marquinhos. Il y a évidemment.
D'ailleurs,
plein
vous avez
d'autres
vu
choses
à la fin
dire
du match, on a vu ça, voilà, sur RMC Sport 1 là. Voilà. On sentait que c'était très froid entre Marquinhos, voilà, et Tourelle.
Voilà. Je pense
que Marquinhos, on l'a entendu.
Il a bien parlé, il a très bien,
oui,
parlé, Marquinhos.
Alors voilà, il n'a pas chargé le coach.
Je pense
en fait,
que le problème part de là, parce que effectivement, il y a plein d'autres choses à dire dans les choix initiaux, les trois milieux de terrain. Mais je pense que ça, c'est un point de rupture que le groupe ne comprend pas. Pourquoi cette décision? Danilo est arrivé. On nous fait croire que, mais non, ça n'est pas un défenseur central et il n'a pas joué défenseur central. Il n'est pas décisif en défense centrale. Marquinhos n'est pas décisif non plus au milieu de terrain, parce que à la limite, moi, je voudrais pourquoi pas accepter la théorie Tuchel si Marquinhos me montrait au milieu de terrain des aptitudes formidables, et je
pourrais
me dire.
Il est pas si mal que ça. Il est
non,
pas
mais
si mal
pas
que
qu'il
ça.
Est pas si mal, mais le problème, c'est qu'il faudrait pas qu'il soit pas si mal.
Mais de chaque
le problème,
côté,
c'est
aussi,
autant qu'il aille,
ce soir,
autant qu'il aille derrière pour, parce qu'il y a pas si mal derrière et pas si mal au milieu. Moi, je préférais
non,
qu'il y ait
c'est moins,
bon
moins,
derrière
moins bien,
et pas
moins
si mal
derrière
au milieu, tu vois. Ou bon
aussi,
derrière et bon au milieu. Mais là, le pas si mal plus le pas si mal, moi, ça me va pas.
Entre les deux. Ouais, moi non plus, ça me va pas. Ah, mais voilà, entre les deux. Mais après, je pense que
le PSG doit aller un peu au-delà du pas si mal.
Si tu laisses un Marquinhos en 6 avec deux autres compères à côté qui ont le niveau de la Champions League, parce que pour moi, ni Gay ni Herrera aujourd'hui ne l'avait. Il a pas été aidé. Et donc bon, je veux pas tomber du tout sur Marquinhos. Et puis toi non plus, t'es pas en train de tomber sur Marquinhos, t'es en train de tomber sur Tourelle. Voilà, les mecs, le mec il fait le job. En plus, il a vraiment bien parlé, en grand professionnel. Mais je vais pas me contenter de ça. Je suis comme toi. Ça m'emmerde, mais j'ai l'impression surtout que tout est fait de la part de Tourelle pour se faire virer. Ouais, je pense. Quand t'as ton directeur sportif qui te recrute ainsi, c'est que tu le mets même pas en 6 et tu le mets en ça veut dire quoi? Ça veut dire le message que tu reçois en tant que directeur sportif, ça veut dire
j'aimerais s'il vous plaît accueillir peut-être le sauveur. Il est là, il arrive, il n'était pas prévu.
C'est fini ça.
Et pourtant,
c'est fini ça.
Il est venu.
C'était
musique.
Avant.
Monsieur Lame, ouais. Jérôme Bretagne.
Bonsoir à tous.
Ça va arriver vite quand t'étais petit. Hein. Ah, c'est pas ta génération ça. Bon, t'es la meilleure à la mienne.
Magnum.
T'as regardé ça?
Bien sûr.
T'as kiffé sur la Ferrari et tout, tu la voulais la Ferrari?
Mais ça me correspondait. En plus, je suis venu en Ferrari ce soir.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des.
T'as pas les chemises à fleurs de Magnum, par contre.
T'as venu à cheval, ouais, c'est tout.
J'ai pas osé, ouais. Ouais. Non, les chemises à fleurs,
moi, c'est après ça que j'ai décidé qu'un jour j'aurai un majordome.
C'est vrai?
J'attends encore.
C'est pas après ça que t'as laissé que t'aurais des chiens?
Comment il s'appelait? Higgins?
Comment
il s'appelait? C'est Higgins, ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Non, les deux Doberman,
je vais refaire l'entrée de Jérôme Antenne. Attention, il n'était pas prévu ce soir, il va sauver le Paris Saint-Germain.
Je suis l'homme
qui est un bloc sur les séries ou quoi? Les vieilles séries.
Ça, c'est tout. Mais ouais, mais ça y est, c'est une autre génération ça.
Bon, bref, on t'a commenté le match.
Ouais.
Jérôme.
Tu m'as fait rire, donc c'est bien déjà. Je suis un peu déstressé.
Bah oui, bah faut se détendre. Hein,
non, c'est... bien sûr, faut se détendre, mais.
Là, tout converge un peu vers Tourelle là, sur ce début d'after.
Ouais, bah oui.
T'as entendu Lionel?
Mais de toute façon, ça me paraît logique et on l'avait dit avant le match. Et je pense que s'il y avait un résultat négatif aujourd'hui, c'est-à-dire une défaite, parce qu'un match nul aurait pu être un résultat positif pour le PSG, je pense que là, il faut trancher dans le vif pour les dirigeants. C'est le moment. Alors après, est-ce qu'ils sont liés à quelque chose et ça les empêche de valider le départ
alors,
de Thomas Tuchel?
On va faire Tuchel en direct, parce que ça, il va arriver là. On va l'écouter.
Tu veux qu'on le vire en direct?
Bah, ouais. Peut-être qu'il va annoncer lui-même qu'il se vire en direct,
oui,
on
oui,
sait
bah,
rien.
Oui, oui, à mon avis, il va.
Il peut faire une Bielsa.
Ouais. Ouais, mais là, il y a des millions en jeu.
C'est parti, on y va.
On a oublié le deuxième et après, on fait une erreur pour un penalty. Et voilà, après, c'était un carton rouge. C'est difficile avec 10. Hein. Et c'est son. C'était trop de situations avec le penalty et le carton rouge contre nous. Et c'est décisif, c'est une équipe forte.
Trois matchs pour le Paris Saint-Germain, trois points, deux défaites. Deux défaites, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain depuis le Qatar okay. a racheté le PSG, QSI a racheté le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce soir, vous vous sentez en danger? Vous savez que les questions sur votre avenir vont revenir encore. Est-ce que votre poste ce soir est en danger? Est-ce que okay. vous vous sentez en danger?
Non.
On a l'impression quand même, Thomas, qu'il y a un problème globalement au club, pas un problème avec vous, mais globalement, Leonardo et vous parlez quasiment plus. Est-ce que ça fragilise aussi votre équipe de voir qu'il y a des problèmes au-dessus de vous avec votre direction?
Non.
Aucun problème.
Encore.
Il n'y a pas de répercussion sur ce qu'on voit sur le terrain?
Non. Pas du tout.
Comment expliquer aujourd'hui alors que le Paris Saint-Germain est en grand danger pour sa qualification?
Oui, parce qu'on joue contre une équipe qui était. Ce sont les premières en Bundesliga il y a une semaine. Ils sont très forts. On a aucun des gars. On a fait un bon match. C'était possible d'être 2-0 en avant. On a fait un bon match, premier mi-temps. C'était ça, plus vrai. Difficile deuxième mi-temps. On manque joueurs, on manque un peu capacité, rythme. Et on doit changer chaque match, c'est ça. C'était un match très, très, très serré. Et n'oubliez pas, c'est le duel direct qu'on veut gagner. Si on gagne 1-0, 2-0 au Parc, on a gagné le duel direct. Et après, on a encore deux matchs après. C'est dans notre main, c'est toujours dans notre main. Et on ne va jamais douter. Parce que c'est pas comme ça. Vous savez bien, je pense, les raisons. Si vous avez attendu qu'on gagne 3-0, 4-0 aujourd'hui, ok, c'est votre attente, mais c'est pas mon attente. Et c'est pas comme ça.
On a entendu.
Vous avez évoqué tout de même votre avenir pardon, hier chez les collègues de Sky. C'est pas quelque chose qui vous trotte dans l'esprit, c'est pas quelque chose dans lequel vous réfléchissez souvent à propos de ça, de votre avenir, le fait que vous êtes en fin de contrat à l'issue de la saison. Vous en avez parlé hier chez
oui, ils m'ont demandé. Mais pourquoi vous... c'est un grand. Parce que ils m'ont demandé pourquoi la presse en France est. Ils écoutent toujours que les coachs sont en danger. Et si c'est. Pourquoi c'est ça? Et j'ai dit, je ne sais pas. C'est comme ça depuis mon arrivée. Mais c'est comme ça, non?
Vous trouvez que vous manquez de soutien?
C'est quoi?
Soutien que on n'est pas assez derrière le Paris Saint-Germain?
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est le club qui me dit. C'est l'impression que la presse et l'environnement est très très critique. Voilà, on peut accepter ça. Ça ne change pas mon travail avec l'équipe. Et ça ne change pas la manière comment on travaille avec le staff et l'équipe à Oredou. Ça ne va changer rien. C'est la vie comme entraîneur à Paris. Ça ne suffit jamais. C'est comme ça. Et c'est aucun problème pour moi. C'était une question hier. Et j'ai donné cette réponse-là. C'est aucun problème pour moi.
Vous avez quand même le conscience, vous avez l'impression que votre groupe vous soutient et derrière vous quand même, c'est important pour un coach.
Oui, oui, mais pourquoi pas?
Je ne sais pas, c'est une question.
C'est le même groupe qui est première en Ligue 1. Ce sont les mêmes gars et on fait ça ensemble. Il y a des phases difficiles dans les sports. Si vous avez attendu qu'on gagne chaque match, ok, c'est votre attente, c'est pas notre attente, parce qu'on sait comment on arrive pendant ce match, avec quel état, et on sait bien que des choses sont très difficiles, mais encore, Aujourd'hui, c'était possible de faire un match nul, c'était possible de gagner le même match. Et voilà, mais on joue pour les duels directs dans cette compétition. On a dit ça en avant. Et voilà, on a toutes les possibilités de gagner. On a eu toutes les possibilités aujourd'hui avec un carton rouge. C'était compliqué. C'était très, très compliqué et pas possible.
Bon, voilà, pour Thomas Tuchel, on va s'arrêter là. Loïc Tanzi lui a posé les bonnes questions.
Pourquoi le carton rouge ? Parce que les cartons rouges, ils viennent pas comme ça, ils viennent pas tout seuls aussi. Si tu prends des cartons, faut analyser pourquoi. Quand tes mecs, ils sont tout le temps en retard. Bon,
après, Lionel, on peut aussi dire que le carton rouge de Gueye, c'est un scandale. Hein.
Bien sûr.
Et quand t'as un carton jaune, tu fais une petite faute comme ça dans le milieu de terrain, au moins tu lui fais un avertissement verbal. Tu lui dis, écoute, la prochaine,
c'est. Oui, c'est un peu rude. Par contre, le carton de Kimpembe est grotesque, en revanche.
Oui, mais le carton rouge de Kimpembe,
ça montre. C'est ça le souci, c'est contre toi.
Le carton rouge de Kimpembe, ça montre quand même une grosse frustration, et en effet ça montre par moment ce geste-là, en tout cas
tellement
il est frustré, il est énervé et tout ça par plein de choses, mais pas que sur le match, hein, c'est pas possible. Alors il y a eu sa main en effet qui est une erreur, le penalty, ok, mais je pense que c'est depuis quelques semaines, tu vois, il y a des choses qui sont dans la tête de certains joueurs et ça se traduit sur la deuxième mi-temps, parce qu'en effet, et là on parlait avec Daniel, c'est vrai que sur moi la sensation que j'ai en commentant la première mi-temps du PSG, elle est très bonne, elle est vraiment cohérente. Ils peuvent mener 2-0 parce qu'il y a ce penalty, et peut-être que en effet je vais porter la guigne en commentant en disant un gaucher il rate jamais, à l'arrivée il a raté ce con, donc la prochaine fois
le plan de jeu se déroule comme il faut aussi dire ça. Certes, je crois pas qu'on soit beaucoup à avoir aimé les trois milieux défensifs, mais encore une fois, quand on dit c'est plus l'animation qui compte que la nature des joueurs, en l'occurrence ce sont trois joueurs qui sont aussi capables de servir du ballon. La façon dont le PSG pressait,
ils se sont jamais projetés. Regarde à chaque fois.
Mais ils étaient très hauts en première mi-temps.
Ils étaient hauts, Lionel. Ils pressaient haut. Ils ont récupéré beaucoup de ballons.
Non. Il y a une différence entre jouer haut et se projeter.
Je te dis, ils jouaient haut et le pressing fonctionnait bien. La première période.
Pas de souci là-dessus.
La première période, elle est bien maîtrisée. Il peut y avoir 2-0 parce qu'un péno, on peut pas faire occasion plus nette qu'un péno. Le but, ils sont un peu larges au marquage. Ça, c'est clair quand il y a une grosse erreur.
Une grosse erreur.
Mais tu peux mener 2-0 dans cette première période. Je dis pas que le match, tout est encore possible après. Mais il n'empêche qu'il faut quand même souligner que cette première période est bonne.
Ouais.
Après, l'écroulement qui suit derrière, les changements qui sont opérés, la façon dont le groupe se disloque avec des épisodes comme le pétage de plomb de Kimpembe, la disparition progressive de Di Maria.
Progressive, c'est surtout tout au long de la deuxième mi-temps.
Tout au long, de la, plus ça allait, moins ça allait, quoi. Petit à petit, le groupe n'était plus uni, tant que le
rythme était là, ça allait. Tant que ils avaient les quilles, ils avaient la présence d'esprit aussi, tout allait. Ils étaient capables, comme vous le dites, comme en première mi-temps, de presser haut. Après, tu te retrouves aussi à 10 contre 11, donc plus de fatigue, plus d'espace pour les autres. T'attends quand même que tes milieux, ils viennent faire quelques bouche-trous qu'ils n'ont jamais fait. Et au-delà de ça, c'est là où je veux dire, tu vois, Jérôme, où il faut se projeter. Tes deux mecs de côté, ils doivent se projeter. Quand est-ce qu'ils se sont projetés pour aider leurs attaquants? Jamais.
Alors, on va continuer le débat dans quelques instants, les gars, avec aussi Quentin qui est là et qui, lui, en a marre clairement de Tourelle.
On peut féliciter parce qu'on dit souvent les interviews et tout. Loïc Tanzi.
Il y a été,
Très, très bonnes interviews.
Lui, il le voit tout le temps parce qu'il est PSG.
Il a posé les questions, il n'a pas hésité à.
Même s'il n'avait pas de réponse.
Il est allé dans le vif du sujet, là.
Ah, exactement. Les deux fois, aussi bien avec Marquinhos. Donc,
ça,
bravo, Loïc.
L'école RMC Sport, messieurs, dames. Allez, à tout de suite dans l'after.
L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten et Lionel Charbonnier. Autant dire que là, c'est une sorte de Dream Team avec Oussem Moussaïef et Polo Breiter qui nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Il a passé un 4 sur 4 cette semaine, lui, non ?
Voilà.
Oh là là.
Donc vous levez le doigt, les gars.
Il a passé un 4 sur 4.
Alors, ça tombe bien, tu connais bien Tourelle et on parle de lui depuis le début de l'after. On va parler de Leipzig également dans quelques instants.
Il a un chèque, selon toi ?
Alors si je suis sérieux, je pense que le problème du PSG depuis des années n'est pas celui de l'entraîneur, mais ça c'est un débat qu'il faudrait faire.
Ça c'est vrai, ça là-dessus je te suis, ça n'est pas que ça.
Donc je sais pas, on va demander à Leonardo qui nous trouve un entraîneur italien, vu qu'il sait faire que ça. Voilà. Moi je pense que de Thomas Tuchel depuis le début, Daniel d'ailleurs, on a été co-auteur d'un livre sur Thomas Tuchel, je rappelle que c'est un élitiste, que c'est quelqu'un, enfin je me répète souvent que c'est quelqu'un qui n'aime pas le public, qui n'aime pas la presse, qui est un véritable travailleur dans le sens scientifique du terme, et je suis pas persuadé qu'il soit fait pour le PSG ou l'inverse, je sais pas du tout. Ce qui me choque fondamentalement, c'est qu'on est né à la troisième année de l'allemand, et je sais que moi je suis un fan de lui sur ce que j'ai vu en Allemagne évidemment, et que je ne vois rien en France, et ça ce n'est pas normal, c'est-à-dire que l'explication elle est là, c'est-à-dire que ce soir, vous l'avez dit, l'équipe se disloque complètement, c'est-à-dire que c'est pas une équipe, c'est, je sais même pas si c'est un club, de toute façon je sais pas ce que c'est, et c'est pas normal. Alors évidemment, il dit Maria, mais le 2-0, c'est pas du tout la même rencontre. On avait même parlé avant avec Jérôme et Daniel. On a bien vu Upamecano, et ben il est pas là en ce moment, et on a bien vu ce qui s'est passé sur le premier but, ouais, etc. Mais si on parle de Thomas Tuchel, ok, changeons Thomas Tuchel. Mais moi, c'est pour être honnête avec vous, ça ne changera pas grand chose.
Effectivement, tu règles le problème et tu le repousses en même temps, en fait.
Voilà. Et ce qui me choque fondamentalement et que j'ai pas de réponse aujourd'hui, c'est comment se fait-il que ce mec qui est le plus doué de sa génération, et je le mets au-dessus de Jürgen Klopp au niveau tactique, soit incapable de faire quelque chose à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a un microcosme parisien qui est compliqué. C'est
Polo,
tout ce que je peux dire.
Oui. Polo, est-ce que pour toi il a eu un effectif déjà aussi complet avec autant de stars à gérer?
Mais l'histoire de stars, moi ça me fait rigoler. Lorsqu'il est arrivé, mais je vais te dire pourquoi. Lorsqu'il a été nommé au PSG, l'équipe de France n'était pas championne du monde. Et à Dortmund, il y avait des joueurs qui étaient champions du monde. Donc cette histoire de...
Ah non, mais tu peux être champion du monde sans te comporter comme une star, avec des égos, généralement, quand t'es champion
Je sais pas trop ce que veut dire la notion de star. On a des stars en Allemagne, elles font
Est-ce
pas...
Est-ce qu'il a eu un Neymar à gérer, par exemple, déjà?
Non, par exemple, il n'a pas eu un Neymar à gérer,
parce que de toute façon, il fait ce qu'il veut partout où il est.
Le vrai problème, il est autre part.
Non, justement, est-ce que le problème, puisqu'il a jamais eu, et que tu dis qu'il a tout se passait bien, et que là, il a des stars à gérer. Est-ce que sa faculté à gérer des mecs comme ça?
Non, mais Neymar, personne ne peut le gérer, Lionel.
Est-ce que tu penses qu'un David Alaba en Allemagne n'est pas considéré comme une star? Je parle pour le football allemand, pour le football germanique. Est-ce pour le football allemand, est-ce que tu penses que David Alaba n'est pas considéré comme une star? Il était le meilleur arrière-gauche pendant des années, etc. Comment le Bayern traite la question, le dossier Alaba aujourd'hui avec le retrait? C'est réglé, je veux dire. Rabiot, c'est qui Rabiot? Je sais pas qui c'est Rabiot, moi, tu vois. Je l'ai vu 10 fois dans ma vie, Rabiot. Et ça fait des années que j'entends parler de lui. Donc, au PSG, tout est comme ça. Il y a des mecs qui sont champions du monde. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, ça va.
On
peut toujours revenir sur l'histoire. Non, mais on est d'accord qu'il y a des problèmes dans tous les cas. Après, attention, hein, Paris n'est pas un petit club aujourd'hui. Paris a quand même eu des résultats en Ligue des Champions. Aujourd'hui, moi, quand je vois et je me mets dans la peau des joueurs, moi, tu vois la réaction des joueurs. Et de toute façon, c'est simple. C'est qu'on l'a vu depuis le début de la saison. Je parle même pas des matchs de Ligue 1, je parle des matchs de Champions League. Il y a un manque d'investissement. Voilà. C'était pas le cas sur la première mi-temps ce soir.
Ils ont peu couru encore.
C'est pas le cas sur la première mi-temps ce soir, mais il y a quand même un élément important. C'est que quand il y a un truc il y a un petit grain de sable dans la machine, et ce qui est le grain de sable, c'est l'égalisation en fin de première mi-temps de Leipzig. Derrière, la deuxième mi-temps, il y a plus rien. Mais il y a plus rien. Ça veut dire que il y a pas un mec, un leader qui ouvre sa bouche sur le terrain et qui va haranguer les autres, et vous faites moins d'efforts et ceci cela. Dans les placements, il y a une incompréhension avec l'entraîneur, ce qu'il veut mettre en place. Alors il y a l'histoire du carton rouge.
Ils sont tout le temps en train de venir voir l'entraîneur.
Ce que je veux dire, c'est que tu fais un changement parce que tu joues à 10 contre 11. OK, il fait rentrer donc il fait sortir, il fait monter Florenzi au milieu de terrain. Florenzi, il passe à gauche, non, il gueule parce qu'il voulait qu'il joue à 3 trois au milieu. Alors moi je veux bien qu'on me dise que c'est un grand tacticien et tout ça, mais bon, à Paris on n'a rien vu, et c'est pas parce qu'il y a Neymar et Mbappé dans le vestiaire qu'il peut pas travailler tactiquement quelque chose de cohérent, et que après ça va sur l'état de forme des joueurs.
Comment moi je pense ça, Jérôme, là-dessus.
Non mais regarde,
là-dessus,
Lionel,
je pense, c'est-à-dire qu'il peut mettre tout ce qu'il veut en
physiquement,
place,
physiquement.
Il peut travailler ce qu'il veut, ce qu'il veut. Si les deux autres, enfin surtout Neymar, s'il a décidé que son circuit préférentiel, il doit absolument passer par lui, et ben il va demander tous les ballons.
Non mais ok, mais Neymar aujourd'hui il était
et donc il peut pas.
Neymar n'était pas là et tu peux pas. Et encore une fois, moi je parle même pas de Neymar, Mbappé, c'est des stars. Peut-être que c'est difficile de les gérer dans un vestiaire, dans un groupe. Ok, et ça sera difficile pour Thomas Tuchel et pour d'autres. Ok, il y a pas de problème. Mais moi je te dis juste que je vois l'état de forme, juste l'état de forme des mecs. C'est pas possible que il y ait des joueurs, ils ont 45 minutes dans les jambes. Di Maria, on parlait de Di Maria. Di Maria, c'est un problème de quoi, Di Maria?
Mais n'oublions jamais. N'oublions jamais que le PSG cette année souffre d'une préparation complètement tronquée. Je ne dis pas, c'est pas une, c'est une explication.
Ouais.
Ça d'accord. Ne compte pas comme excuse puisqu'ils se sont, ils se sont à la fois mis dedans seuls avec la façon dont ils ont géré le post Final 8. Mais néanmoins, il y a eu la façon dont s'est déroulé le Final 8. Derrière, les fameuses vacances dont on a beaucoup parlé. Une préparation tronquée parce qu'en plus beaucoup ont été malades. Le championnat qui a repris et en France, on a été unique quand même, aussi bien dans l'arrêt que dans la façon dont on a repris. Que le championnat soit, que les,
mais c'est
que
quoi, une préparation PSG tronquée. Moi, je veux bien, Daniel.
Ils sont pas préparés.
Non, mais
il y a pas de préparation physique.
Oui, mais attends. De toute façon,
Di Maria en plus, il y a eu les répercussions de ce match ô combien mal géré contre l'OM avec la suspension.
La suspension au contraire.
Donc en fait, ils se sont mis dedans tout seuls. C'est pour ça que je dis, c'est pas une excuse parce qu'ils se mettent dedans tout seuls.
Mais oui, mais
parce que
quand
la préparation, c'est au club de la préparation, de la mettre en place.
La préparation.
Ah voilà, ok.
Non, mais la
préparation, c'est le staff technique aussi.
C'est à la fois le staff technique qui a mal préparé.
Quand on te permet d'avoir des vacances alors que les autres tes adversaires directs qui ont gagné.
Il y a plein d'éléments dont il faut parler, Lionel. Il y a plein d'éléments. La façon dont on a arrêté, qu'on a repris, le PSG qui a fait n'importe quoi avec ses vacances. Certains ont été malades.
Mais ça, c'est pas une excuse. Plus sur le plan physique, Daniel. Je suis désolé, les vacances.
Physiquement.
Non, mais en fait, la préparation physique du début de saison, c'est pas pour être. C'est pas pour.
Mbappé en a parlé dans une interview. Il a dit juste.
Mais là où il se trompe, c'est que la préparation, elle est pas faite. Et il y a plein de joueurs avec les périodes internationales, les coupes du monde, les euros où j'en passe là tous les étés. De toute façon,
oui, mais
les
à internationaux. Chaque fois, c'est dur pour ceux qui reviennent.
Non, mais c'est dur.
Souvent, c'est dur.
Ok, c'est dur quand tu joues beaucoup. Là, on peut pas dire qu'ils ont beaucoup joué. D'accord. Donc ils sont partis en vacances. Ils se sont remis à jouer des matchs de compétition assez vite, sans avoir en effet les 5 semaines de préparation. Mais les 5 semaines de préparation, il faut pas qu'on se trompe. Même les joueurs actuels, quand ils tiennent ce discours-là, faut pas qu'on se trompe. Elles servent pas pour être prêts au mois d'octobre-novembre. Elles servent pour durer toute la saison, c'est-à-dire au mois de mars, avril-mai, là où se gagnent les compétitions, pour être en pleine bourre, pour avoir le foncier à ce moment-là.
Là, je suis pas d'accord, Jérôme. Les 5 semaines de préparation, elles te servent pour monter en progression par rapport à des objectifs, que tu te passes, et notamment
Lionel,
en Coupe d'Europe.
On va nous parler des vacances du PSG qui se sont passées au mois d'août, alors qu'on est au 4 novembre. Non, mais les gars, faut pas déconner. Au 4 novembre, on va encore dire c'est à cause de leurs vacances. Mais à quand? C'est parce qu'ils travaillent mal, moi je te le dis, aux entraînements. Ils travaillent mal, et ben forcément, ils ont une autonomie contre des équipes qui bossent bien et qui donnent et qui se donnent sur le terrain, comme Leipzig, avec leurs limites, parce que le dernier quart d'heure de Leipzig a été très compliqué aussi physiquement.
Ils ont eu la trouille.
Mais je suis désolé. Dire au bout d'un moment, physiquement, quand les joueurs du PSG, ils ont une autonomie de 45 minutes pour certains, mais c'est pas normal. Ça, c'est de la faute de Thomas Tuchel et de son staff.
Et ça, c'était mon deuxième point.
Et ça, c'est pas un problème tactique de président ou de présidence ou de club. Non, c'est un problème d'investissement à l'entraînement. Et pour moi, je te le dis, Thomas Tuchel ne s'investit pas correctement aujourd'hui.
Et de gestion aussi. Alors, et de gestion repose. Par rapport à tout ça.
Vous êtes tous chauds. Quentin aussi, il patiente. Promis, Quentin, on te prend à l'antenne dans quelques instants. Hein. On va finir sur le PSG. On dira à Modren aussi qui a perdu 3-0. L'after continue avec vous jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Lionel Charbonnier, Oussem Loussaïef et Quentin, supporter du PSG qui patiente depuis un moment, qui vous écoute religieusement. Salut Quentin.
Bonsoir les gars.
Salut Quentin.
Salut Quentin.
J'ai joué pour le Breitner, hein, qui est toujours parmi nous, bien sûr.
J'ai l'habitude.
La chapouine.
Alors Quentin, c'est à toi. Tu as écouté les uns et les autres. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Est-ce que tu es d'accord déjà avec ce que tu as entendu sur Tourelle?
Alors, pas forcément. Je suis d'accord avec Jérôme, je suis d'accord avec Daniel, mais je ne suis pas d'accord avec Paulo Breitner. Moi, personnellement, j'ai développé trois points. Moi, personnellement, c'est tout simplement, le premier, c'est les joueurs sont en autogestion. C'est le premier point que j'ai développé. Voilà, les joueurs sont en autogestion. Le deuxième point, c'est Danilo Marquinhos, parce que ça, il va falloir qu'on en parle et je vais développer après. Et le troisième point, et c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est Tourelle démission. Au bout d'un moment, je commence à en avoir ras-le-bol.
En démission,
je commence à en avoir ras-le-bol avec tous les supporters parisiens.
Quand elle passe à la compta, il va voir Micheline, il prend le chèque et il part.
Ouais, mais voilà, mais il n'y a pas de souci. On lui fait le chèque, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut dire stop. Stop aux conneries. Au bout d'un moment, Leonardo nous a recruté un numéro 6. Alors, je dis pas que c'est le crack, je dis pas que c'est Sergio Busquets. Maintenant, je dis juste une chose. Il nous a recruté un numéro 6. Il inverse les joueurs de poste.
Est-ce que tu crois que c'est pas fait exprès, ça, Quentin?
Non, mais bien sûr que c'est fait exprès.
Franchement, ça se demandait.
Regardez juste le deuxième but. J'ai regardé le match. Jérôme était au commentaire. Jérôme va pouvoir le dire. Sur le deuxième but, Danilo, il couvre tout le monde.
Oui, ouais, tout à fait.
Mais même sur le premier but, Marquinhos qui est aligné comme un défenseur central, alors que c'est lui qui doit sortir.
Il ne sait pas jouer en défense centrale.
Ça, tout a été dit en commentaire.
Danilo, c'est un milieu défensif. Il ne sait pas jouer en défense centrale. Maintenant, quand je regarde la gestion, et désolé les gars, mais je suis énervé, mais quand je regarde la gestion de Tourelle qui nous fait rentrer Kerrer.
Ah oui, ça c'est la.
Ah ouais, non,
putain,
mais
ça fait une belle rentrée aussi. Excusez-moi les gars.
Faire rentrer le boulanger aussi. Tu perds de 1. Non, mais tu perds de 1. Comment oui, tu fais pour sortir les deux latéraux?
On a fait un match contre Nantes où on n'était pas bon. Il nous a fait rentrer, je dis pas que c'est un crack, il nous a fait rentrer le petit Case Ruiz. Je dis pas que c'est un crack, loin de là. Par contre, le mec, il est rentré, il a éclairé le jeu, il a joué simple, il a fait ce qu'il avait à faire. Le garçon, putain, mais au lieu de nous faire rentrer Case Ruiz, putain, on est mené 2-1, il nous fait rentrer Thilo Kerrer. Il y a au bout d'un moment, faut se poser des questions. Et là, si Leonardo, il m'écoute, et je supplie qu'il m'écoute, mais limoger Thomas Tuchel, c'est fini.
Non, mais déjà, le cas Kerrer, défenseur central, qui est très grand, lorsqu'on est mené 2-1, c'est la grande mode actuelle de faire rentrer à quelques minutes de la fin des joueurs comme ça pour qu'ils mettent la tête.
Est-ce qu'il sait gérer des stars?
Ça veut rien dire, cette question.
C'est le seul point où vraiment, Quentin, je vous promets, arrêtez avec ça. C'est du bidon complet, cette histoire-là.
C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Parce que tu gères pas, tu fais pas ton début de carrière avec des stars, tu te fais ton truc tu te fais ça avec des jeunes, avec des mecs, tu te construis ta carrière d'entraîneur.
Excusez-moi,
quand tu montes.
Ils vont pas ce soir, en fait, parce que les stars sont pas là. On prendra le temps de le faire, si vous voulez, mais là, ce soir, ça vaut pas.
Mbappé, non, mais moi, c'était mon interrogation de départ et on est en plein dedans.
Je vais te donner un exemple simple, Lionel, historique. L'histoire, arrêtez avec cette histoire de star machin. Ça n'est pas l'entraîneur qui gère les stars, c'est un club qui gère les stars.
C'est pas faux.
C'est comme ça que ça doit se passer. Si Arrigo Sacchi, qui est un entraîneur absolument inconnu,
exactement,
quand il se fait tailler sur les deux premières journées et qu'il met Van Basten sur le banc et que le groupe pète un câble, et notamment Van Basten en disant quel est ce guignol qui vient nous entraîner, toutes les stars. Si Berlusconi n'intervient pas pour dire dans le vestiaire,
exactement,
ce mec-là ne partira jamais et vous allez continuer à bosser avec lui, il n'y a jamais le Grand Milan, il n'y a jamais sa cuite.
Je suis d'accord.
Il retourne à sa bibliothèque et plus personne n'entend jamais parler de lui.
Je suis d'accord.
C'est les clubs qui gèrent les stars, ça n'est pas un entraîneur seul.
Après, reste à savoir si, à moins que tu veuilles comparer Arrigo Sacchi avec Thomas Tuchel.
Mais Sacchi, il ne devient personne s'il n'est pas soutenu par Berlusconi.
Van Basten, Sacchi, c'est quand même Sacchi.
Van Basten, encore 30 ans après, dit qu'il ne déteste, il n'a jamais voulu bosser avec lui.
Mais ça, on s'en fout que les mecs qui détestent. Un entraîneur, il n'est pas là pour se faire aimer. Maintenant, je ne peux pas.
Il n'aurait jamais pu bosser si Berlusconi ne l'avait pas.
Non, je suis pas d'accord.
Le temps passe. Il est 23h36. On va clôturer là. le dossier PSG, il faut encore qu'on parle de Rennes.
Il y a quand même une bonne nouvelle. Hein.
Ouais, Polo.
Pour le PSG, la mauvaise nouvelle du soir, c'est pour Manchester United, hein, c'est pas pour le PSG. Hein.
Oui, parce que ça se resserre.
Ben oui.
Ouais. Et,
ben
bon, oui. Et Tourelle a raison tout de même quand il dit
c'est une mauvaise nouvelle.
Si on, si on gagne 1-0 contre Leipzig, on est devant eux au goal average particulier.
Exactement.
Et après, tout n'est pas acheté aux chiens.
Non, mais après, ils considèrent que tu bats les Turcs à domicile. Ok, très bien. Donc, tu arrives à 3 à 9 points.
13-2 matchs à domicile et un match à
Manchester.
C'est pas une grosse équipe, Daniel. Matchs, hein. C'est pas une grosse équipe, Manchester United.
Non, non, bien sûr que c'est pas une grosse équipe, mais le PSG en ce moment, équipe. C'est pas une grosse équipe non plus.
Polo, tu veux rajouter un truc avant de nous quitter?
Oui, Hollande, le Norvégien, 11 matchs de Ligue des Champions, 14 buts, je crois que c'est tous les records, enfin c'est fou, quoi. Et il a toujours la banane, quoi, donc c'est, alors évidemment, c'est des Bruges. Oui, oui, donc c'est bien, Dortmund est repassé premier, donc voilà.
Ouais, là, c'est la semaine des Allemands, là, vous avez tout éclaté.
Ah, oui, ouais, ça va pas durer, ça va pas durer.
Ah, d'accord, ok.
12, allez. 13, 14, 15, ouais. 17 buts en 4 matchs.
Oh, nous, un jour, ça sera, il y aura bien une semaine dans l'année où ça sera notre semaine.
Est-ce que tu as déjà vu en Ligue des Champions les Français marquer 17 buts en 4 matchs? Non. Franchement.
Non, par contre, c'est sûr, c'est 3 défaites.
En 4 matchs en... Ligue des Champions, on les fera jamais.
Le 0 sur 3 sur une semaine,
oui, déjà.
C'était pas arrivé depuis 2011 quand même.
3 défaites?
Ouais. 0 sur 3. En bon. Une semaine en Ligue des Champions.
Merci Polo.
Merci à vous. Ciao, ciao.
Temps, c'est pas fini.
Salut Polo. Jérôme, je sais pas si tu veux rester avec nous pour parler de Rennes ou sur.
Non, je l'ai pas vu, donc ça sert à rien. Moi,
bon, bah, écoute, merci d'être passé, McDonald. On te laisse.
Salut mon Dieu.
Ce qui est sûr, c'est que le my match que j'avais fait avec Daniel sur Rennes, bah ça s'est encore vérifié. Comme quoi, je sens le football quand même.
Oui, enfin, tu sens le football. Je me rappelle d'hier quand t'as dit jouer le Shakhtar, les gars, c'est un coup sûr.
Son my match, c'était le versus. J'ai pas passé ma cote à 1,9 sur la victoire de Porto sur l'OM. 1,93, c'est passé.
Elle est passée, elle est passée.
1,93, c'est passé, mon vieux.
Bon, allez.
Allez, Rennes au programme dans quelques instants. Les autres matchs du soir dans l'after. On se retrouve tout de suite. Salut, Jérôme.
Allez, bonsoir.